Alléluia. Et nous croyons que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, le Seigneur, il est là. Alléluia. Eh bien, je voudrais nous inviter, frères et sœurs, à, au-delà du prédicateur que je suis, tous à entendre la voix de Dieu. Je voudrais vous inviter ce soir à ouvrir à nouveau dans la deuxième lettre de Timothée, au chapitre 4. Voilà, je voudrais poursuivre sur ce thème que nous avons vu déjà, je crois, il y a deux mardis, si mes souvenirs sont bons. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 6 et 7. Bon, on lira les 6, 7 et 8. Il dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation, où ma vie est déjà sacrifiée, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. À la fin de sa vie, Paul dresse ce bilan pour dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et il dit que, quand il dit « Pour moi, je sers déjà de libation », il exprime que sa vie a été un sacrifice agréable à Dieu depuis le moment où Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas jusqu'à cet instant où Paul est en prison. Il sait que le moment de son départ approche et lorsqu'il fait un bilan, si on peut dire comme ça, de sa vie et qu'il écrit cette lettre à Timothée, il va dire « Ma vie ». Alors, toute ma vie au service de Dieu a été un sacrifice agréable à Dieu. Et il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je voudrais, frères et sœurs, m'attarder plus particulièrement avec vous ce soir sur le fait de dire « j'ai combattu le bon combat », une vie de combat. Si l'apôtre dit « j'ai combattu le bon combat », c'est qu'il y a également un mauvais combat. Voilà. Et le déterminant « le » veut dire qu'il n'y a qu'un seul bon combat, en fait. Et lorsque nous lisons les écrits de Paul, tout au long de ses écrits, à plusieurs reprises, il va parler du combat. Et il va parler de ses compagnons de combat. Dans cette œuvre que le Seigneur lui a confiée, il a eu des compagnons qui ont combattu avec lui le bon combat. Il parle d'Épaphrodite en disant « compagnon d'œuvre et de combat ». Il parle dans ses combats qu'il combat pour les églises. Dans sa lettre, première lettre à Timothée, il dira à Timothée que je reçois le témoignage comme quoi tu combats le bon combat. Les témoignages qu'on rend de Timothée, c'est qu'il combat le bon combat, c'est-à-dire le même combat que Paul. Et dans cette même lettre, il va encourager Timothée à combattre le bon combat de la foi. Et je crois, frères et sœurs, que le fait de combattre n'est pas uniquement réservé aux serviteurs de Dieu. il est réservé à tous les enfants de Dieu que nous sommes. Depuis le moment où nous avons accepté Christ dans notre vie, nous sommes entrés dans le combat de la foi. Et on va lire, tout à l'heure on l'a lu, mais on va le relire quand même. Éphésiens chapitre 6. Dans la lettre de Paul, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, il va leur bien leur expliquer, leur signifier que les armes que nous utilisons, ce ne sont pas des armes charnelles, même si nous vivons dans la chair, c'est-à-dire que nous sommes des hommes, des femmes, avec nos caractères, notre intelligence, notre sagesse, nos qualités, nos défauts, etc. Mais il va dire, ce n'est pas avec cela que nous combattons. Nous combattons avec des armes spirituelles capables de renverser des forteresses, des raisonnements qui s'élèvent contre la volonté de Dieu, contre l'obéissance de Christ, et dans lesquels, eh bien, des hommes, des femmes sont tenus liés. Et lorsque l'Église s'engage dans ce domaine du bon combat, lorsque l'Église réalise que nous sommes dans le combat, et lorsqu'elle prend à cœur de rester dans le bon combat, eh bien, il y a forcément des conséquences positives. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans l'évangile, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, c'est une partie de cette lettre que nous connaissons tous très bien, les armes spirituelles, etc. Nous voyons ici que la plupart des armes qui sont citées, elles sont toutes des armes défensives. Il n'y a qu'une seule arme offensive qui fait les deux, c'est l'épée. Voilà. Mais toutes les armes sont défensives. Ça veut dire que nous avons à protéger une position. Notre rôle est de protéger une position. D'ailleurs, il le dira lui-même. Il dit, verset 13, par exemple, il dit, chapitre 6, il dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et il dit, « Tenez donc ferme. » Donc, frères et sœurs, la majorité de notre combat, le principal de notre combat, c'est de tenir ferme notre position en Christ. Voilà. L'offensive, le Seigneur, il l'a déjà fait. Il l'a déjà accompli à la croix. Et l'essentiel du combat maintenant, c'est de résister contre les assauts de l'ennemi. Et, frères et sœurs, dans le livre de Josué, chapitre 1er, on ne va pas le lire ce soir, mais dans ce livre, le Seigneur va dire à Josué que c'est toi que j'ai choisi pour faire entrer ce peuple dans le pays de la promesse. Mais il va lui faire une recommandation. Médite la parole jour et nuit, qu'il soit l'objet de ta méditation. Jour et nuit, n'y manque pas, parce que c'est la clé de la réussite. Vous voyez? Et j'ai bien apprécié les chants que le frère il a apportés tout à l'heure, parce que, surtout le dernier chant, il nous rappelle cela. L'importance de la parole dans la vie du croyant. Et finalement, quand on regarde les armes spirituelles, eh bien, en fait, ce n'est qu'une seule arme à plusieurs facettes. Vous voyez? Elles sont toutes liées à la parole. Et je voudrais ce soir que nous arrêtions peut-être sur un aspect particulier, en tout cas, la première arme qui est citée. La première arme qui est citée ici, c'est dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Voilà. Je crois que je l'ai déjà dit ici une fois, que dans la description de l'armure, il n'est pas parti des pieds vers la tête ou de la tête vers les pieds, ce que moi j'aurais fait, mais il est parti de la ceinture. Comme si c'est l'élément clé, principal. Et lorsqu'on regarde et qu'on médite un peu, que j'ai médité un petit peu, eh bien, je me rends bien compte combien la vérité, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie de l'Église, dans la vie du croyant. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17, il dit, ta parole est la vérité. Et nous savons que Jésus est la parole. Et que l'esprit que Dieu veut répandre sur l'Église, c'est l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Alors si Dieu attache de l'importance à la vérité, c'est qu'il y a une raison. On peut en évoquer plusieurs certainement, mais nous vivons dans un monde dominé par le mensonge. Le diable est qualifié le menteur, le père du mensonge, et que le monde entier gît sous la domination, sous l'autorité de l'ennemi. C'est-à-dire que le monde dans son entier vit dans un contexte de mensonge. Et nous avons besoin, avant tout, d'être remplis de la vérité de Dieu. Et quand, lorsqu'on parle de la ceinture et des reins, on parle de la force. Dans mon pays, quand quelqu'un part, eh bien, on va lui donner beaucoup de paroles, mais dans ce qu'on va lui donner, eh bien, il y a un tissu sur ce que nous appelons chez nous une coutume, il y a un tissu. Et celui-là, la parole qui va sur ce tissu, c'est de dire, tu vas t'attacher avec ce tissu. Elle sera ta force. Pour lui rappeler que les liens, parce qu'il parle le tissu parle du lien entre celui qui donne la parole et celui qui s'en va. Voilà. Pour dire que le lien, il est important. La parole que je te donne est importante. Elle sera ta force. Et c'est vrai, la parole de Dieu est la vérité. Nous l'avons chantée. Et la vérité, c'est, je vais dire, en opposition à la vérité, il y a le mensonge. Il y a la tromperie. Il y a la dissimulation. Il y a ce qui est factice, ce qui est une copie qui ressemble à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Il y a l'éphémère qui ne dure qu'un instant et avec lequel on attire les regards des hommes, la publicité l'utilise. Mais tout ça, c'est éphémère. Il y a le chimère, c'est-à-dire les croyances mystiques. Il y a les ruses de l'adversaire. Il y a les pièges. Il y a l'aveuglement. Il y a le calcul, les intérêts, les ambitions. Tout ça sont cachés dans le mensonge et ma liste n'est pas exhaustive. Mais si je prends le temps ce soir de nous parler de cela, c'est afin d'interpeller notre cœur et notre conscience, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le mal s'accroît, l'iniquité s'agrandit, le mensonge s'accroît, la vérité trébuche sur la place publique et personne ne réagit, ça devient normal. Mais le croyant, l'enfant de Dieu, la servante de Christ, le serviteur de Christ, il doit demeurer dans la vérité. Il doit s'attacher avec la vérité. Samedi, lorsque nous avions pris un temps de prière avec les frères et sœurs avec qui on devait sortir, comme il pleuvait, on n'est pas sorti, mais on a pris un temps de prière, voilà. Et je leur ai posé la question, frères et sœurs, qu'est-ce qui est attaché à la ceinture? À quoi elle sert la ceinture? Alors ils m'ont dit, bon, mais pour tenir le pantalon, ça c'est vrai, hein? Pour tenir le linge, etc. Mais lorsqu'on le considère, le regarde de manière spirituelle, on voit que à la ceinture est attachée l'épée. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne pourra pas exercer, utiliser, vivre la parole si nous ne sommes pas habités par la vérité. Et il est important plus que jamais que cette vérité soit au fond de nos cœurs parce que c'est elle qui va mettre en lumière tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Dans Jean chapitre 8, versets 31-32, Jésus parle aux Juifs qui l'écoutent et dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alléluia. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Josué. Il va au combat et la recommandation de Dieu à Josué, médite la parole, que celle-là soit l'objet de tes pensées chaque jour. Parce qu'en réalité, l'action de l'ennemi se fait au niveau des pensées et au niveau du cœur. Et Paul, dans sa lettre, il dit, j'ai combattu le bon combat. Et lorsqu'on lit ses écrits, on voit les choses auxquelles il a été confronté. Mais il n'a pas utilisé les armes de la connaissance qu'il a pour renverser les ennemis, etc. Il s'est réfugié dans les armes spirituelles, dans la parole. À chaque fois, il a cité la parole pour redresser les hérésies qui commençaient à s'infiltrer dans la vie de l'Église. Et il va dire, j'ai gardé la foi. Paul a accompli beaucoup de choses. Mais à la fin de sa vie, voyez, quand on fait une conclusion, eh bien, dans la conclusion, on parle de l'essentiel. À la fin de sa vie, dans la conclusion de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il n'a pas parlé de toute la puissance que Dieu a manifestée au travers de son ministère. Il n'a pas parlé de ceux qui sont sauvés, des églises qu'il a créées, etc., pour faire un bilan de ce qu'il a fait. Non. Paul a parlé de dire, j'ai combattu le bon combat. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et dit, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et je crois, frères et sœurs, que nous sommes concernés. Nous devons nous sentir concernés. Et certainement aujourd'hui, plus qu'il y a 2000 ans. Parce que vous comme moi, nous savons que nous sommes à la fin des temps. et que l'esprit du mensonge s'infiltre d'une manière insidieuse dans nos rangs. Et beaucoup d'églises sont parties dans la déviance en raison de l'infiltration de doctrines ou d'actions, etc. Mais ce qui va nous rendre imperméable à cela, ce qui va nous permettre d'avoir une lecture parfaite de la situation, quel que soit ce que nous voyons, c'est la vérité. Et si Christ vit en nous, la vérité vit en nous. Et si nous avons l'esprit de Christ, nous avons l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité nous conduit toujours dans la vérité. Et lorsque Jésus va s'entretenir avec la femme samaritaine, il va lui dire, Dieu, ce qu'il cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et je crois que plus que jamais, nous devons nous préoccuper de la place de la parole, de la vérité dans notre vie. Et plus nous allons lire cette parole avec cet état de cœur de dire, Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux entendre ta voix. Tu vois cette situation dans laquelle je me trouve. Je ne sais pas, je suis déstabilisé, je ne sais pas quelle décision prendre. Mais toi, tu sais quelle est la bonne. Alors éclaire-moi. Et quand on s'avance dans la direction que Dieu nous donne, nous sommes accompagnés par la paix de Dieu. Mais si nous n'avons pas la paix, il faut la chercher. Parce que Dieu a fait la promesse, le Seigneur a fait la promesse, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne. Parce que la paix du monde ne dure qu'un instant, c'est éphémère. Mais la paix de Dieu nous permet de traverser toutes les tempêtes qui peuvent s'élever dans notre vie. Et garder la foi, on ne va pas le développer ce soir parce qu'on prendrait trop de temps, mais si Paul a dit « j'ai gardé la foi », il a gardé l'essentiel. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses, mais il a gardé l'essentiel. Parce qu'en fait, pour combattre le bon combat, la foi est essentielle. Sans la foi, on ne peut pas combattre le bon combat. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans le bon combat si tu as perdu la foi. Et dans la parole de Dieu, il nous est parlé à plusieurs reprises que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Nous sommes dans le temps de la fin. Beaucoup vont abandonner la foi. Mais nous ne sommes pas obligés d'être de cela, même si c'est une parole qui dit déjà d'avance ce qui va arriver. Oui, il y a beaucoup qui vont abandonner la foi, mais moi je ne veux pas être de cela. Je veux être quelqu'un qui garde la foi jusqu'au bout. Et vous savez comme moi, frères et sœurs, que la Bible nous dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est la foi qui nous permet d'avoir la faveur de Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et de ce fait, sans la foi, Dieu ne peut pas nous accompagner si on ne lui plaît pas. Il dit que celui qui n'a pas la foi, il est comme quelqu'un qui est ballotté de gauche à droite, comme un objet sur la mer. Quand le vent pousse ici, ben il va vers là. Quand le vent pousse là, ben il va voir ici. Ainsi, on peut voir les gens qui ne savent pas trop. Ah oui, c'est peut-être ça la vérité. Mais finalement, ce n'est pas celle-là. Je crois que c'est ici qu'elle est la vérité. Ils ne savent pas. Vous voyez? Mais la foi, c'est Christ qui est l'auteur de la foi. Le livre des Hébreux nous parle de cela. que Christ est l'auteur de la foi et qu'il conduit cette foi vers la perfection. C'est-à-dire qu'il nous conduit à grandir. Il affine notre foi tout le long de notre vie. Et toutes les circonstances que nous pouvons traverser dans notre vie ont pour objet d'affiner, de perfectionner cette foi. Et il nous dit également comment la foi est venue dans notre cœur, dans notre vie. C'est la parole. Que lorsque nous avons accueilli cette parole, elle a fait naître dans notre cœur la foi véritable. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si nous ne prenons pas le temps de lire, de méditer la parole, notre foi ne peut pas être nourrie. Mais plus nous la lisons, plus nous la méditons, plus nous faisons d'elle l'objet de nos pensées, de nos discussions, de nos interrogations, de notre tenue devant Dieu, eh bien, plus cette parole va accomplir cette œuvre de vérité dans notre vie et va nous conduire sur le chemin de la foi véritable. Je crois, frères et sœurs, que j'ai dit l'essentiel. Il y a certainement beaucoup qu'on peut ajouter, mais je crois que j'ai dit l'essentiel et je voudrais nous inviter, vraiment, frères et sœurs, à ce que notre foi ne soit pas l'objet d'une expérience d'un moment. Vous voyez ? On peut se trouver dans une situation où là, on a vécu la foi. Puis une fois passé cet événement, voyez, puis on ressurgit, voyez. Non, ce que Dieu veut faire, ce que le Seigneur veut faire, c'est de nous maintenir dans le domaine de la foi. Tous les jours, dans les grandes comme dans les petites. Il a dit à Josué, tu vas aller combattre. Voilà comment, quelles sont les directives générales pour le combat. C'est toi qui vas faire entrer le peuple, mais il y a une chose essentielle, parce que celle-là, c'est la garantie du succès. Vous voyez? Et c'est toujours la même jusqu'à aujourd'hui. Médite la parole, jour et nuit. Quels sont les combats auxquels tu es confronté, mon frère, ma sœur? Quels sont tes combats? Mais dans ces combats, eh bien, cherche Dieu. Parce que Dieu est là dans le combat. Parce qu'il l'a déjà combattu. Parce que ce qui te concerne, la victoire appartient à l'Éternel. Et parce que Josué a compris cela, eh bien, tout le long de sa vie, il a vécu cela dans la conquête de Canaan. Je voudrais parler rapidement, juste pour terminer, le premier roi d'Israël, choisi par Dieu, dont Dieu a changé le cœur. Comme nous, frères et sœurs, nous sommes le choix de Dieu. Et pour que nous entrions dans ce choix de Dieu, Dieu a changé notre cœur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, mais l'œuvre de la croix a pour objet de changer notre cœur, de façonner, de remettre en nous les pensées, les sentiments qui sont à Christ. C'est ça qui nous a amenés à la croix. Nous avons confessé nos péchés et depuis ce jour, la vie nouvelle s'est installée dans notre vie. Vous voyez? Mais Saül, vous savez comme moi. Quand le Seigneur lui a dit, va, au travers du prophète Samuel, va et attends-moi 7 jours. Tu attends 7 jours. J'arriverai pour le sacrifice. Il a attendu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour. Le soleil se lève. Il a bientôt descendu à l'horizon et il a vu que l'ennemi est en face, que les gens ils commencent à s'en aller. Et il a dit, ben, je vais faire le sacrifice. Ça lui a coûté la royauté. ça lui a coûté son service pour lequel Dieu l'a appelé. Parce qu'il a voulu faire les choses d'une manière charnelle. Comme si Dieu est en retard, alors je vais faire ce qu'il faut. Ça dure un peu trop longtemps, alors je vais faire ce qu'il faut. Je vais prendre la décision qu'il faut. Je vais agir comme il faut. Frères et sœurs, c'est ici qu'il fallait exercer la foi. Attendre. C'est la responsabilité de Dieu, ça. Il faut savoir attendre le secours de Dieu. Voyez ? Et Dieu va le mettre encore à l'épreuve. Mais ce premier incident a gardé dans son cœur des traces. Ce qui fait que, parce qu'il a vu que les gens s'en allaient loin de lui, il commence à s'égarer, etc. Eh bien ça, et vous voyez, quand on commence à regarder autour de nous, voyez, et qu'on détourne le regard de Christ, notre foi se détourne de Christ, on va commencer à s'enfoncer. Pierre a commencé à marcher sur les eaux, mais quand il a vu la force des vagues, il a détourné le regard, il a vu la force des vagues et il a sombré. Mais ce qu'il a fait, béni soit Dieu, Seigneur, sauve-moi. Se trouverait-il ce soir au milieu de nous quelqu'un qui est en train de perdre la foi, qui est en train de patiner, qui est en train de se noyer en raison des difficultés qu'il vit, qu'il traverse? Ce soir, c'est le temps favorable, c'est le temps de Dieu, c'est le secours de Dieu qui vient vers toi. Alléluia. Je vous supplie de ne pas rentrer à la maison comme vous êtes rentré ici. Mais ce soir, de saisir la main de Dieu qui se tend vers vous pour reprendre le chemin, pour reprendre le combat, là où vous avez abandonné. Dieu est celui qui vous accorde ce soir sa grâce. Alléluia.